carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Annie Regon.
Bonjour, bienvenue dans ce carrefour des arts consacré aujourd'hui encore à Émile Malle. Aujourd'hui, nous recevons M. Erland Brandenburg, qui est conservateur général honoraire du patrimoine, ancien directeur des archives de France, ancien professeur à l'École nationale des chartes et auteur de très nombreux ouvrages et contributions sur l'art du Moyen-Âge et particulièrement sur l'époque gothique. Je rappelle qu'Émile Malle a occupé plusieurs de nos émissions. Il était né en 1867, il est mort en 1954 et il a consacré sa vie à l'histoire de l'art essentiellement médiévale et essentiellement à l'iconographie. Donc, nous allons aujourd'hui voir avec M. Erland Brandenburg quel est l'apport d'Émile Malle encore aujourd'hui et surtout l'importance de cet auteur pour l'histoire de l'art du Moyen-Âge. Voilà, monsieur, comment avez-vous découvert Émile Malle?
C'était un phénomène très simple. C'est mes parents qui m'ont offert un jour de Noël, alors que j'avais 18 ans, l'ouvrage « Le XIIIe siècle » d'Émile Malle. Je l'ai lu. Ça m'a un peu encouragé dans ma vision d'une future carrière, c'est-à-dire les musées. Et le XIIIe siècle est devenu depuis mon compagnon.
Un de vos livres de chevet.
Un de mes livres de chevet.
Et depuis, donc, vous avez continué dans cette voie qui a donc guidé aussi toute votre vie, donc sur l'étude de l'art médiéval. Qu'est-ce que vous avez apporté donc après cette première lecture qui, j'imagine, était peut-être une découverte et j'imagine que vous aviez dû être séduit par le style d'Émile Malle, qui est en même temps qu'un érudit, un grand écrivain. Ensuite, comment avez-vous fait fructifier un petit peu cette lecture?
Alors, quand même, il faut bien dire que la question du style chez Émile Malle est essentielle. C'est l'âge où on découvre Proust, on a pris l'habitude d'une phrase admirablement rythmée. On découvre aussi des ouvrages d'historiens généralement assez mal écrits. Et Émile Malle apportait par son style une dimension à ce qu'il disait qui est essentielle. C'est-à-dire que le style, comme dit Proust d'ailleurs, ce n'est pas une question de technique, c'est une vision. Et dans cette écriture de Malle s'ajoute cette vision qui ne pouvait que transporter quelqu'un qui n'avait pas 20 ans et qui percevait, grâce à la subtilité des mots utilisés, la richesse de l'art médiéval.
Qui à ce moment-là était encore relativement, à l'époque où Émile Malle écrivait, il a été vraiment novateur. Enfin, nous avons déjà eu l'occasion de le dire à l'antenne, mais il faudrait peut-être rappeler
il faut quand même dire
novateur.
Que son ouvrage de 98, c'est-à-dire sur l'art de religieux au XIIIe siècle en France, est un ouvrage fondateur. Certes, il a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, il n'y a pas de doute qu'il a fortement utilisé, mais la puissance de synthèse d'Émile Malle et l'organisation de son ouvrage de façon extrêmement rigoureuse a donné à l'histoire de l'art et à l'iconographie une dimension qu'elle n'avait pas. On l'oublie aujourd'hui parce qu'on a tellement intégré Émile Malle qu'on s'en aperçoit plus, mais à côté de, il n'a pas à rougir à côté de Michelet. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, la comparaison est flatteuse.
Le Moyen-Âge de Michelet nous a tous marqués. Il ne faut pas oublier qu'il l'a écrit bien avant. Et Émile Malle a voulu rivaliser dans un domaine complètement différent avec Michelet dans son XIIIe siècle. En tout cas, on le sent très bien dans le XIIIe siècle.
Et donc, la méthode qu'il avait mise au point est une méthode qu'on pourrait peut-être rappeler brièvement ici.
Il faut quand même. Émile Malle est parti d'une idée très simple. Il s'est interrogé pour savoir qu'est-ce qu'était l'art médiéval. Et pour comprendre l'art médiéval, il s'est interrogé, il répond à la fin de l'ouvrage du XIIIe siècle, sur la différence qu'il y avait entre le concepteur et le créateur, le sculpteur, le peintre, etc. Il ne faut pas oublier d'autre part, et c'est une première, qu'il envisage toutes les techniques. Et il fait bien cette distinction, le concepteur c'est celui qui a l'idée de l'image, et qu'il puise dans sa culture, et il appartient à l'artiste de la mettre, et j'utilise un mot exprès, en musique. C'est-à-dire que l'image puisse réaliser deux choses, la synthèse entre ce qu'on disait à cette époque, au XIIe, la pericia, la venustas. La pericia, c'est l'habileté technique sans laquelle il n'y a pas d'œuvre d'art, et la venustas, c'est la séduction pour faire passer le message. Pour être clair, pour un homme du Moyen-Âge, une œuvre mal exécutée n'existe pas. Comme un ouvrage ou un discours que vous écoutez mal écrit ou mal prononcé n'existe pas. Et la puissance de séduction depuis les origines chrétiennes de l'art a été un élément redoutable, peut-être redouté, de l'expansion du christianisme. Pour Émile Malle, comme pour tous les religieux, l'image est pédagogique, les textes sont difficiles à comprendre, difficiles à interpréter dans une langue qui n'est pas toujours très simple, en latin en plus, alors que l'image se perçoit dans sa totalité en une seconde. Et c'est ça qu'Émile Malle a parfaitement compris, et il a donné de ces deux siècles de l'histoire de l'art une puissance suggestive telle qu'elle demeure entière aujourd'hui.
Et alors, donc ça, c'était en 1898, donc à une époque où l'histoire de l'art était tout de même une discipline peu développée, où on pâtissait en particulier du manque de reproduction. Émile Malle, lui, est allé beaucoup sur le terrain. Il raconte dans ses mémoires comment il allait visiter les monuments, ce qu'il faisait, comment il prenait aussi quelques photographies. Et donc, il a été vraiment un pionnier.
Il a découvert l'art, non pas uniquement à travers les ouvrages qui n'étaient pas illustrés d'ailleurs, mais en les voyant. Ses voyages à pied, en Auvergne, etc. La plus grande découverte qui a modifié sa vie, c'est Florence, Sainte-Marie.
Santa Maria Novella.
Santa Maria Novella. Et c'est là, il faut quand même le rappeler, où il a renoncé à sa carrière d'héléniste.
Oui.
Pour
se vouer,
épouser le Moyen-Âge. C'est-à-dire que cette puissance de l'image, il l'a parfaitement compris, il l'a parfaitement assimilé, et il a été le premier à le faire comprendre aux autres.
Voilà, et on pourrait peut-être rappeler l'iconographie de ce cloître vert avec cette chapelle des Espagnols, qui est une sorte de résumé de la connaissance de l'époque, avec saint Thomas d'Aquin, qui préside à toutes les allégories de la connaissance de ce moment-là.
Absolument. L'un des mérites d'Émile Malle, c'est qu'il a un œil, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et il a compris que bien avant les grands écrits du XIIIe siècle, comme le Speculum Majus de Vincent de Beauvais, qui est du milieu du XIIIe siècle, bien avant la légende dorée, la cathédrale, Paris, Amiens, Chartres, était déjà la synthèse des artistes au début du XIIIe siècle, 50 ans avant. Et c'est là le grand mérite d'Émile Malle, qui a perçu que l'image n'était pas une juxtaposition d'images, mais une explication du monde, une synthèse du monde. Avant qu'on ne rédige.
Oui, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on a toujours tendance à croire que le texte a précédé l'image.
Non.
Et là, il a montré vraiment de manière éclatante que c'était le contraire.
C'est le contraire. Et ça, je crois que c'est essentiel et tout le monde ne le comprend pas. C'est que le Moyen-Âge ne s'exprime pas tellement par les textes. Ce sont des textes qui remontent très haut. Les pères de l'Église, on glose, on les interprète. Mais la création médiévale, c'est l'image. C'est elle qui a formé notre société. La cathédrale est beaucoup plus importante que n'importe quoi, non seulement par sa présence au sein de la cité, mais par le message qu'elle diffuse à l'ensemble des habitants de la cité.
Oui, et il est très important de noter que auparavant, les images ne s'étalaient pas sur les façades. Ça, c'est une spécificité du Moyen-Âge.
Alors là, je crois que c'est également, on va venir à l'autre ouvrage d'Émile Malle, le XIIe siècle, qu'il a écrit beaucoup plus tard, en 1922, où il commence son premier chapitre. Je vais utiliser un mot un peu belliqueux, mais qui correspond à la réalité, c'est-à-dire la conquête de l'image. L'image, le christianisme est né dans une civilisation de l'image. Le monde romain est envahi par l'image. Les chrétiens épousent l'image. Cette image disparaît sous différentes raisons. D'abord parce qu'on pensait qu'il y avait un risque d'idolâtrie. Et je n'ai pas dit qu'on les supprimait, mais on devient aniconique. Et à partir de la fin du XIe siècle, l'Église, qui est l'Église grégorienne, qui est réformatrice, qui veut nouer un rapport complètement inédit avec les fidèles, va communiquer par l'image. Et cette image s'exprime à l'extérieur de l'Église, au portail notamment, par où entrent les fidèles.
Oui, ça c'est vraiment très important et c'est nouveau.
C'est capital. Parce qu'on oublie une chose, c'est que le portail n'est pas à l'ouest, ça intervient plus tard. On entre latéralement, à Moissac, où est le portail, en face de la rue qui mène au village de Moissac, à Saint-Cernin de Toulouse. C'est la même chose, ce n'est pas la façade. La façade est dans l'enceinte monastique, c'est là, la rue qui conduit également de Toulouse au monastère. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. C'est-à-dire que le chrétien, avant de franchir le seuil de l'Église et d'intégrer ce qu'on appelle l'Ecclésia, la communauté, voit une image qui le frappe. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais imaginez au XIIe siècle.
Oui, ça devait être très frappant.
Très frappant.
Une période où les personnes ne possédaient pas d'image chez elles. Donc le lieu de l'image, c'était quand même, en effet, l'endroit où l'on pénétrait dans le sanctuaire. Et donc ça, effectivement, Émile Malle l'a très très bien montré.
Il a très bien compris ce phénomène nouveau et tout le chapitre sur le portail historié, pour l'époque, évidemment, on a repris aujourd'hui, mais pour l'époque, était un chapitre bouleversant. Et je crois qu'on l'a mieux compris en Allemagne et aux États-Unis qu'on ne l'a compris en France, parce qu'on est une civilisation de l'écrit.
Oui, c'est-à-dire qu'en France, il y a une tradition où l'écrit a vraiment été très respecté. Enfin, on peut dire que le livre, tout ce qui se lit, tout ce qui peut se transmettre par la lecture, est vraiment très, très vénéré, beaucoup plus que l'image qui peut, par certains côtés, être considérée comme fausse, enfin, comme pouvant divulguer quelque chose dont on doit se méfier.
L'image est très mal vue aujourd'hui par les intellectuels. Ils ne l'admettent pas, parce qu'elle est tellement forte que le discours écrit est toujours plus faible qu'elle-même. Quand vous voyez le portail de Moissac, ou le portail Notre-Dame de Paris, ou n'importe quel autre, vous avez une sensation, je dirais presque effrayante, de compréhension de la sensibilité des hommes de cette époque-là, qui ont figuré l'image du Christ, qu'elle soit apocalyptique à Moissac, qu'elle soit de compassion à Paris, qui évidemment imprègne tout le monde. Pour l'écrire, il faut 20 pages.
Oui,
tandis que là, en une seconde,
voilà, on a la perception a la immédiate, perception. Évidemment très forte de cette image, effectivement, qui était donc, comme on l'a indiqué, conçue par un concepteur et réalisé par un artiste. C'est ce que Émile Malle avait très bien montré.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant. On croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Nous reprenons notre entretien avec M. Erland Brandenburg au sujet de l'œuvre d'Émile Malle et en particulier des ouvrages que Émile Malle a consacrés au XIIIe siècle puis au XIIe siècle. Et donc, je voulais aborder avec vous le problème de ce qui a suivi l'œuvre d'Émile Malle. Donc, comment est-il aujourd'hui ressenti? Est-ce que l'on se sert toujours de son œuvre? Quelles sont les limites de certains de ces résultats obtenus? Et comment peut-on encore puiser peut-être de nouvelles idées de recherche dans cette œuvre?
Pour ce qui est du XIIIe siècle, je considère qu'il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. C'est véritablement l'œuvre parfaite d'un grand savant, très sensible, qui a trouvé une adéquation entre sa culture, qui est énorme. Il connaît tous les textes anciens, la patrologie latine qui vient d'être publiée, ce style admirable dont on a parlé tout à l'heure, et puis le plan de l'ouvrage qui s'inspire manifestement de Vincent de Beauvais oui. avec les différents miroirs, qui permet pour toute personne de comprendre le XIIIe siècle. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Émile Malle a été à Toulouse,
professeur au lycée
et professeur d'histoire de l'art à l'université. Il avait un enseignement. Il n'y avait pas de chaire d'histoire de l'art, sauf à l'école des Chartes. Ailleurs, il n'en avait pas. Et Émile Malle était, comme tous ceux qui enseignent, a compris qu'il était essentiel, notamment dans le domaine difficile de l'image, d'être très pédagogique. Et par là même, la clarté de son exposé fait que pour aujourd'hui encore, dès qu'on a un étudiant, il faut lui recommander Émile Malle pour le XIIIe siècle. Je crois qu'il n'y a pas de doute. C'est la meilleure clé pour comprendre cette période.
La meilleure initiation.
C'est la meilleure initiation.
Oui, c'est ce qu'on continue à faire en première année. On donne Émile Malle dans la bibliographie, ça c'est quasiment obligatoire. Et en plus, en prévenant qu'il s'agit d'une lecture agréable, que ça n'est pas du tout ennuyeux, qu'au contraire, on lit ça de façon presque avec enthousiasme.
Et Fermigier, André Fermigier, quand il dirigeait la collection chez Hachette de l'histoire de l'art, avait republié en livre de poche Émile Malle et Faucillon. Moi-même, je m'étais occupé de Faucillon. C'est-à-dire.
Alors justement, on peut parler de Faucillon un petit peu.
Il est évident que la sensibilité de Faucillon n'a rien à voir. Nous sommes devant deux grands géants. Nous sommes devant deux grands géants. Avec une différence de date qu'il ne faut pas oublier, Émile Malle a écrit toute son œuvre, sauf le Concile de Trente, avant l'écriture par Faucillon de son art d'Occident. Mais on s'aperçoit bien que Faucillon, qui a également un style d'une qualité absolument extraordinaire, Faucillon est très marqué par Émile Malle, très marqué et qu'il a parfaitement intégré Émile Malle.
Et sa méthode.
Et sa méthode, même si, sur beaucoup de choses, évidemment, leur optique n'est pas tout à fait la même. C'est l'histoire des formes pour l'un, Faucillon, pour l'autre, c'est l'histoire de la pensée et de la pensée chrétienne. C'est complètement différent. Nous sommes donc, dans cette moitié du XXe siècle, devant des ouvrages qui vont nourrir toute la pensée des médiévistes.
Et alors donc, la comparaison s'impose entre les deux auteurs, notamment pour le XIIe siècle.
Pour le XIIe siècle, Faucillon a profité des travaux. Lui-même s'est aperçu que l'on connaissait bien le XIIIe siècle, mal des époques antérieures. Il a l'un de ses meilleurs chapitres, c'est sur la roman, le vrai roman, c'est-à-dire une époque très brève, fin XIe, milieu XIIe dans le nord de la France, milieu XIIIe dans le reste de l'Europe. Le reste, à mon avis, ce n'est pas de la roman, c'est de l'antiquité tardive qui s'est prolongée. Et Faucillon a écrit la meilleure synthèse qu'on ait jamais écrit sur la roman, en montrant, en reprenant notamment le problème du portail, etc., et en montrant que c'était véritablement l'art d'Occident, c'est-à-dire quelque chose de très nouveau, qui était la synthèse d'un héritage de plusieurs siècles, avec à la fois l'Antiquité qui a joué un rôle essentiel, l'Orient également, dont on a aujourd'hui tendance à minorer, mais je crois juste titre, le rôle. Émile Malle avait beaucoup insisté sur l'iconographie orientale. Aujourd'hui, c'est davantage pondéré. Et à ce moment-là, Faucillon a compris qu'il manquait quelque chose que maintenant on a étudié, c'est le XIe siècle. C'est le XIe siècle et ce qu'il a appelé le temps des innovations, le temps des expériences, où plein de choses se mettent en place, où l'héritage reste également très fort, mais la création va permettre cet épanouissement de la fin du XIe avec l'Église romane, dont il ne faut jamais oublier qu'on ne peut pas la séparer, le mot n'est jamais très bon, de son programme sculpté et peint.
Oui, et puis également de son environnement aussi.
De son environnement.
Souvent, beaucoup d'églises romaines appartenaient à des abbayes ou à des cathédrales, avec des cloîtres, avec d'autres lieux où l'image pouvait aussi se déployer.
Alors ça, c'est un phénomène très très important. C'est-à-dire que l'image pour les fidèles, ça se comprend. L'image pour les religieux, ça choque d'abord Saint Bernard, mais Saint Bernard est un homme, on dirait aujourd'hui, un peu intégriste.
Un peu excessif.
Un peu excessif, oui, oui. Etc. Mm. Et les cloîtres, moi ça qui en est le premier exemple, au début du XIIe siècle, sont destinés aux seuls fidèles, aux seuls religieux.
Oui.
Et le programme sculpté est extrêmement important, d'une richesse et d'une qualité tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que l'image destinée aux religieux montre bien un point tout aussi important, c'est-à-dire que la vie dans un monastère n'est pas facile, qu'il faut lui apporter le calme, la sérénité et la beauté.
Et aussi peut-être la base de réflexion. Peut-être la méditation peut-elle prendre appui sur l'image.
Prend forcément appui sur l'image.
À cette
beaucoup
époque,
plus qu'on ne le dit.
Oui, oui.
Beaucoup plus. La musique aussi qu'on commence à découvrir et l'image.
Et donc, dans ce domaine, on peut dire que si on veut bien comprendre l'art religieux au XIIe siècle, il faut lire à la fois Émile Malle et Henri Faucillon.
Oui.
Même encore aujourd'hui.
C'est, comment dirais-je, il y a beaucoup d'idées qui sont un peu dépassées chez d'Émile Malle, qui ont été remises en cause, notamment l'affaire des routes de pèlerinage.
Oui, alors ça, c'est une idée qui a la vie dure, pourtant.
Qui a la vie dure, on n'y peut rien, puis ça plaît beaucoup. D'autant plus qu'aujourd'hui, ces routes de pèlerinage, je pense à Saint-Jacques, sont devenues des routes moderne, c'est-à-dire européenne.
Oui, c'est tout à fait à la mode de
partir à Saint-Jacques. C'est tout à fait à la mode. C'est très intéressant parce que ça touche l'ensemble également de l'Europe. Il y a du monde aujourd'hui sur les routes de pèlerinage, il n'y en avait pas avant. Il ne faut quand même pas rêver. L'ouvrage sur les routes de Saint-Jacques, c'est une vaste entreprise de communication dont je ne suis pas sûr, comme on l'a cru encore dans ma jeunesse, qu'elle entraînait des millions d'individus. Il s'agissait d'attirer du monde à Saint-Jacques. On a imaginé cet ouvrage qui est admirable, mais les grands pèlerinages, c'est Rome et Jérusalem. Ce n'est pas Saint-Jacques.
Pour lesquels on n'a pas ce guide du pèlerin qui existe donc pour Saint-Jacques.
Il n'existe pas parce qu'on y allait.
Voilà, ce n'était pas la peine de faire la promotion du lieu.
Ce n'est pas la peine de faire de la com, comme on dit aujourd'hui, pour un lieu qui était.
Oui.
Quand on lit les textes sur le XIe, XIIe siècle, sur Jérusalem, sur Rome, c'est normal, on y va.
Oui, donc ce n'est pas la peine,
d'éditer,
d'écrire en tout
Mais
cas.
Mais ça, c'est tout à fait caractéristique, c'est la primauté de l'écrit. Comme il y a un guide du pèlerin de Saint-Jacques, on pense que toute l'humanité allait à Saint-Jacques. Mais non, quand on lit et voit maintenant, il y a eu des thèses récemment sur Saint-Jacques.
Oui, c'est de M. Jacomet notamment.
Oui, Jacomet et puis d'autres qui remettent un peu en cause ceci. Les grands pèlerinages, c'est Rome, évidemment.
Oui. Et donc, Émile Malle s'était peut-être un peu laissé abusé par l'importance
Il a vu
de
l'importance
l'ouvrage.
Des pèlerinages,
oui.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était un normal supérieur avec Joseph Bédier, qui est le grand historien des chansons de geste, dont il pensait qu'elles avaient été imaginées le long des routes de Saint-Jacques. Et il a repris cette l'idée de Bédier qui, aujourd'hui, n'est plus tout à fait admise, non.
Oui, enfin, c'est donc un des petits griefs qu'on pourrait faire à cet ouvrage, mais...
Écoutez-moi, ça fait petit grief, comme si on faisait des griefs à Michelet,
voilà,
et dans sa
ça.
Vision de Jeanne d'Arc.
La science a progressé, on va dire.
La science a progressé, il n'empêche qu'il a donné un souffle, peut-être disproportionné sur certaines parties, il y a des thèmes, les routes de Saint-Jacques, le rôle de l'enluminure, quand tu fais une comparaison entre le tympan de Moissac et le fameux Beatus. Ce n'est évidemment pas une enluminure qui a inspiré le concepteur et qui a inspiré l'artiste. C'est un phénomène beaucoup plus important qui est celui de la création artistique. Comment se fait la création artistique? C'est un processus complexe au Moyen-Âge sur lequel... Dès le IVe siècle, on a écrit, c'est-à-dire le rôle d'abord pédagogique de l'image, de la conviction de l'image, du choix de l'image qui se fait, et nous avons encore une fois beaucoup de textes qui le disent, par ce qu'on appelle aujourd'hui un concepteur, vraisemblablement un religieux. Mais la mise en musique, enfin la vénoustase, et la Péricia, c'est évidemment l'artiste.
L'artiste, voilà. Donc ça, c'est le rôle des historiens de l'art, aujourd'hui, comme à l'époque d'Émile Malle, d'essayer de comprendre ce phénomène pour quelque époque que ce soit.
Alors, on peut s'interroger pour savoir si le mot « histoire de l'art » convient. Le drame, un des drames humains, c'est la création. Toute œuvre.
Pourquoi un drame?
Parce que c'est compliqué. Ça met en question des personnes différentes. D'abord, le financier, il faut trouver l'argent, le maître d'ouvrage, le concepteur, l'artiste et le public. Vous avez quatre personnes, quatre groupes de personnes qui interviennent, qui ont leur opinion, qui acceptent ou qui refusent. Nous ne connaissons pas très bien les réactions des fidèles. Il faut imaginer qu'elles étaient aussi fortes que lorsqu'on a voulu faire la pyramide au Louvre.
Oh, certainement.
Où l'opposition, ou en France, c'est l'élément capital, le nom, ont été vraisemblablement très violentes. Saint Bernard en est quand même la démonstration au XIIe siècle, mais vous en avez à la fin du XIIe à Notre-Dame de Paris, qui condamne tout ceci, qui condamne ces grandes cathédrales, qui condamne ces vitraux, cette sculpture surabondante, etc.
Ça ne fait jamais l'unanimité.
Ça ne fait absolument pas l'unanimité. Et d'autre part, l'image s'impose, le texte se lit, s'interprète, exige une attitude complètement différente. Donc, la réaction des intellectuels est généralement plutôt négative.
Oui, et enfin, c'est un vaste champ d'études là, qui est offert aussi bien.
Je pense que nous sommes en train de réécrire l'histoire de l'art médiéval.
Actuellement.
Par justement la prise en compte des fidèles. L'art gothique n'existe en grande partie que par l'acceptation du fidèle à l'intérieur de la cathédrale. Quand on fait ces énormes cathédrales, Sens 1140, Paris 1160 et toutes les autres, les fidèles occupent les deux tiers de la cathédrale, alors que précédemment, ils avaient une ou deux travées. C'était beaucoup plus réduit. Et le dialogue des religieux avec les fidèles se fait par les façades dont on vient de parler, Sens, Senlis, Paris, etc. C'est-à-dire gigantesque, et toute la ville va s'organiser autour de cette cathédrale, en modifiant, comme Notre-Dame de Paris, Maurice de Sully rase toute la pointe orientale de l'île de la cité.
Ça modifie la circulation dans la ville, l'urbanisme, qu'on n'appelle pas encore urbanisme, bien sûr, mais c'est vrai que ça modifie considérablement un centre-ville.
Et ça, on ne l'a pas encore pris en compte, mais aujourd'hui, on voit plus clair. On le voit pour Senlis, pour Notre-Dame de Paris, pour Bourges, etc. C'est-à-dire, on recentre la cathédrale dans la ville.
Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Erland Brandenburg, de toutes ces informations à partir des 1000 malles. Et puis, je pense que nous pourrions encore converser longtemps sur ce problème de la place de l'art dans la société et du rôle des historiens de l'art. Merci beaucoup.
Merci à vous.